Bonsoir mes amis et bienvenue à ce message qui est sur le sujet l'Assemblée de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous quelques considérations à ce sujet qui est assez important. Un sujet qui se trouve dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres, dans les Actes des Apôtres et bien sûr aussi dans les Évangiles. Et tout d'abord, nous aimerions lire quelques passages. Nous commençons en Matthieu chapitre 16. Et j'aimerais lire Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur Jésus lui-même dit à Pierre, « Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Ensuite, nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, 1 Corinthiens, chapitre 12, et nous lisons le verset 13. « Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. » L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 20 jusqu'à 22, « Ayant édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur et qui vous en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. » Même Épître, chapitre 5, le verset 25 au milieu, « Comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât et la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. » Le mot « assemblée » ou « église » se trouve plus que 100 fois dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus en a parlé à deux reprises. En Matthieu 16, nous avons lu ce verset, et en Matthieu 18, nous trouvons l'assemblée ou l'église dans les Actes des Apôtres, les premières années du christianisme sur la terre. Et bien sûr, nous trouvons la doctrine quant à l'Assemblée, à l'Église de Dieu, dans les épîtres du Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de l'apôtre Paul. Il est bien sûr impossible de traiter ce sujet dans tous ses détails ce soir. J'aimerais justement partager avec vous quelques considérations de base. Et la première considération, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est l'Assemblée? Qu'est-ce que c'est l'Église? Il y a ceux qui pensent que l'Église, c'est un bâtiment, c'est une maison, c'est peut-être une cathédrale, une maison sainte. Il y en a d'autres qui pensent que l'Assemblée ou l'Église, c'est plutôt un terme technique. Et il y en a d'autres qui pensent que l'Assemblée, c'est une organisation, c'est un club, c'est un cercle. Mais que dit la parole de Dieu. Non, l'assemblée, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un immeuble, une cathédrale. Ce n'est non plus un terme technique et ce n'est pas une organisation. Nous avons lu que le Seigneur Jésus dit en Matthieu 16 que lui-même, il bâtira son assemblée. Et l'apôtre Pierre, dans la première épître au chapitre 2, nous explique que cette assemblée, cette église, se compose des pierres vivantes. Ça veut dire des croyants qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'Église ou l'Assemblée, c'est un bâtiment, c'est vrai, c'est un temple, c'est une maison, mais pas une maison matérielle, mais un édifice spirituel. Ce n'est non plus un terme technique, mais l'Église est construite des croyantes qui ont la vie. C'est un édifice vivant et pas un terme technique. Et l'Église n'est non plus une organisation, un club, un cercle, non pas une organisation, mais un organisme vivant. Nous avons lu en 1 Corinthiens 13 que l'Église est comparée à un corps humain. Ce n'est pas une organisation, mais un organisme vivant. La deuxième considération qui appartient à cette Église, à l'Assemblée. Le mot grec, c'est peut-être connu, est « ecclésia ». Et « ecclésia » signifie « ceux qui sont appelés », « ceux qui sont tirés du monde et ajoutés au Seigneur Jésus », « attachés au Seigneur Jésus ». Des pierres vivantes, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Ce sont ceux que Dieu a appelés tout d'abord. Deuxièmement, ils ont la vie éternelle. Ils ont accepté l'évangile de la grâce, la parole de la vérité. Et troisièmement, ils sont scellés avec l'Esprit Saint. Tous les croyants du temps de la grâce, des fois on dit l'économie de la grâce, c'est le temps présent, tous ceux appartiennent à l'Assemblée. Ceux qui sont appelés de Dieu, qui ont paix avec Dieu, qui ont la vie éternelle et qui sont scellés avec l'Esprit Saint. Ceux-ci forment l'Assemblée. Et il se pose une question pratique à chacun de nous ce soir. Est-ce que nous appartenons, est-ce que vous appartenez à l'Assemblée? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Sauveur? Est-ce que tu as accepté la parole de l'Évangile? Est-ce que tu as la vie éternelle? Une troisième considération que j'aimerais partager avec vous, qui est le propriétaire de l'Assemblée ou de l'Église? On entend parler des gens, des hommes qui disent l'Église catholique. Elle appartient à qui? À des catholiques? L'Église protestante, elle appartient à qui? À des protestants? On parle de l'Assemblée des frères. Quels frères? Est-ce que l'Assemblée appartient à des frères? Les darbistes, est-ce que l'Assemblée appartient à M. Darby? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un seul propriétaire de l'Église, un seul propriétaire de l'Assemblée. C'est l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée du Dieu vivant. En acte 20, nous lisons l'assemblée de Dieu pour laquelle il a donné son Fils. Il a payé pour cette assemblée, il a donné son Fils. Et c'est pourquoi l'assemblée appartient à Dieu. De même, bien sûr, c'est l'assemblée de Jésus-Christ. « Je bâtirai mon assemblée », c'est ce que le Seigneur Jésus dit, c'est son assemblée. Pourquoi ? Il a donné sa vie, il a aimé l'assemblée, Éphésiens 5, et il a donné sa vie pour l'assemblée. Elle est si chère à lui. Et troisièmement, c'est l'Esprit Saint qui a formé l'assemblée. Nous sommes baptisés en un corps par l'Esprit Saint. L'assemblée n'est pas notre assemblée, mais l'assemblée de Dieu. Et cela a aussi une conséquence pratique. Qui a l'autorité dans l'assemblée? Celui à qui l'assemblée appartient. Toute autorité dans l'assemblée est à notre Dieu et au Seigneur Jésus. Ce n'est pas notre autorité. Il est le chef, il dirige et non pas nous. Bien sûr, l'assemblée réunie a une certaine autorité pour lier et pour délier ce que nous lisons en Matthieu 18, mais ce n'est pas une autorité étrinsèque, c'est une autorité qui a été dérivée. Une quatrième considération. La première fois que l'assemblée se trouve dans le Nouveau Testament, c'est en Matthieu 13, et j'aimerais lire ces deux versets. Matthieu 13, verset 25. « Encore le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. » Bien sûr, le mot « assemblée » ou « église » n'est pas utilisé dans ce passage. La première fois que nous trouvons ce terme, c'est en Matthieu 16. Mais sans aucun doute, le Seigneur Jésus, en Matthieu 13, parle de cette église, de l'assemblée. Et il compare cette assemblée à une perle précieuse. Une perle a tout d'abord une grande valeur. Et je viens de dire que l'assemblée est si chère pour le Seigneur Jésus. Elle a une grande valeur pour le Seigneur Jésus. Deuxièmement, une perle parle de beauté. Et l'assemblée, dans les yeux du Seigneur Jésus, a une grande beauté. Et le jour viendra où il se présente à lui-même, cette assemblée, sans tache, sans ride, dans une gloire parfaite. Troisièmement, une perle parle aussi de l'unité. On ne peut pas couper une perle sans la détruire. Une perle est toujours une unité. Et l'assemblée, l'Église, est une chose qui est unie, un corps, une maison, l'unité de l'assemblée, l'unité de l'Église, c'est une pensée qui se trouve partout dans le Nouveau Testament. De nouveau, j'aimerais poser une question pratique. Est-ce que nous partageons l'estime du Seigneur Jésus pour l'assemblée? Des fois, nous risquons de parler légèrement de l'assemblée, mais il ne faut jamais parler légèrement de l'assemblée. C'est une perle, une grande valeur, une grande beauté pour le Seigneur Jésus. Un cinquième point, une cinquième considération. Depuis quand est-ce que l'assemblée existe? Et à cette question, on peut donner deux réponses. Dans le conseil de Dieu, le propos de Dieu, les pensées de Dieu, cette église, cette assemblée existe de l'éternité à l'éternité. Dieu avait un propos éternellement. Et dans les pensées de Dieu, l'Église a toujours existé. Mais il y a une deuxième réponse à cette question. Dans le temps, l'Église a commencé lors du jour du Pentecôte en acte 2. Là, l'Église a trouvé son commencement. Le baptême avec l'Esprit Saint avait lieu en ce moment, en acte 2. Des fois, on entend qu'on dit l'Église depuis Adam. Mais ce n'est pas correct de s'exprimer ainsi. Dans l'Ancien Testament, l'Église n'a pas encore existé. C'était un mystère qui a été caché dans les siècles avant l'époque de la grâce. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens et aussi dans l'Épître aux Colossiens. Un mystère. La vérité de l'Église, la vérité de l'Assemblée a été cachée dans l'Ancien Testament. Bien sûr, dans la lumière du Nouveau Testament, nous voyons des images, des illustrations de l'Église dans l'Ancien Testament, mais la vérité elle-même n'était pas encore connue. Abel, Noah, Abraham, Moïse, David et tous les croyants de l'Ancien Testament n'étaient pas part de l'Assemblée. Ils étaient des croyants, des modèles pour nous, bien sûr, quand il est question de la foi, de vivre dans la foi, mais ils n'ont pas une part avec l'Assemblée. Ce mystère a seulement été révélé dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que tous les croyants forment cette assemblée. Tous les croyants, depuis le moment de Pentecôte jusqu'à l'enlèvement ou le ravissement des saints forme cette assemblée. Une unité, tous les croyants. Bien sûr, il y a une expression locale de cette assemblée. Ce n'est pas notre sujet ce soir. Il y a une expression locale, bien sûr, dans une ville, dans un village. Mais dans le dessein de Dieu, tous les croyants sur la terre, tous les croyants qui ont accepté le Seigneur Jésus pendant le temps de la grâce forment cette assemblée. Une sixième considération. Le Nouveau Testament nous donne des illustrations de l'assemblée, de l'Église, pour mieux comprendre la vérité de l'Assemblée. Il y en a plusieurs illustrations, plusieurs images de l'Assemblée dans le Nouveau Testament. J'aimerais justement mentionner trois qui sont plus ou moins connues. D'abord, le corps. Deuxièmement, la maison. et troisièmement, l'épouse. Le corps. Nous sommes baptisés en un corps. Il y a un seul corps. Comme je venais de dire, tous les croyants forment ce corps. Le corps nous parle, l'illustration d'un corps nous parle d'abord de l'unité. Le corps, c'est une unité, bien sûr, mais en même temps, le corps parle de diversité. Il y a des dons de grâce dans l'assemblée, des tâches qui sont différentes. L'unité et en même temps diversité. Diversité en unité et unité en diversité. C'est ce que le corps nous enseigne. Nous avons une relation commune avec notre tête, avec Christ dans la gloire. Et il y a une conséquence pratique pour nous. Et j'aimerais justement lire un verset en Éphésiens chapitre 4. Au début, nous sommes exhortés à marcher d'une manière digne, verset 1, de l'appel dont vous avez été appelés avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Garder l'unité de l'esprit. Il y a l'unité du corps qui existe toujours, mais cette unité a été établie par l'Esprit Saint et nous sommes encouragés de garder cette unité dans nos relations que nous avons avec des membres du corps. Le corps, unité, diversité et garder cette unité qui a été établie par l'Esprit Saint. La deuxième illustration, c'est la maison. La maison que le Seigneur Jésus bâtit, des pierres précieuses. Et la pensée principale de la maison est que Dieu habite dans cette maison. Et là où on habite, on se révèle. Dans la maison de Dieu, Dieu se révèle. Il se révèle comme étant saint et glorieux. La gloire de Dieu et la sainteté de Dieu sont des deux caractères distinctifs de la maison de Dieu. Dieu se révèle. Il habite dans son assemblée. Une habitation de Dieu dans l'Esprit Saint, Éphésiens 2. Et de nouveau, la maison a aussi une portée très pratique. En 1 Corinthiens 3, nous lisons que nous aussi, nous baptisons la maison de Dieu. En 1 Pierre 2, nous voyons que nous servons Dieu dans sa maison. Et en 1 Timothée 3, nous voyons que nous nous comportons dans la maison de Dieu. Se comporter, servir et bâtir, ce sont les trois pensées pratiques qui se rattachent à la pensée de la maison de Dieu. Et il y a une troisième illustration, c'est l'époux et l'épouse. Le Seigneur Jésus, l'époux céleste, et nous, son épouse. Et la relation entre l'époux et l'épouse est bien sûr caractérisée par l'amour. Et en Éphésiens 5, nous voyons ce que l'amour du Seigneur Jésus a fait pour l'assemblée. ce que l'amour fait maintenant dans le présent et ce que l'amour fera dans l'avenir. Christ, il a aimé son assemblée. Il aime son assemblée et il aimera son assemblée. Et de nouveau, il y a une conséquence pratique. Apocalypse 2 nous parle de l'assemblée à Éphèse. Et le Seigneur Jésus doit dire, « Tu as quitté, tu as perdu le premier amour. » C'est une question qui se pose à chacun de nous personnellement, mais aussi une question qui se pose à nous comme étant l'assemblée. Le Seigneur Jésus aime son assemblée. Est-ce que son assemblée, est-ce que l'Église aime aussi son époux? C'est une question sérieuse qui se pose à chacun de nous. Une septième et une dernière considération, quelle est la destination de l'assemblée? Elle sera à toujours là où le Seigneur Jésus est maintenant. Et nous lisons dans le dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 21, verset 9. « Et l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Voilà l'Église dans l'avenir. Elle est l'épouse, ou on peut traduire ce mot « la fiancée », l'épouse au jour de la noce, et en même temps, elle est la femme de l'époux, la femme du Seigneur Jésus. L'épouse parle de la fraîcheur, de la relation, la fraîcheur de l'amour entre Christ et son assemblée, et cet amour sera toujours fraîche. La femme parle de la profondeur de cette relation d'amour entre Christ et nous. Chers amis, quelle joie pour nous, pour l'Église, pour l'assemblée, pour l'épouse, d'être unis à Christ pour toujours. Plus de taches, plus de rides, tout est une gloire parfaite. Quelle joie pour nous. Mais, chers amis, quelle joie pour le Seigneur Jésus. Que voit-il aujourd'hui en contemplant son assemblée? Des taches, des rides, des fautes, des faiblesses. Mais un jour, tout sera parfait. Il se présenta lui-même, cette assemblée, dans une parfaite gloire. Quel moment pour le Seigneur Jésus! J'aimerais justement lire un verset dans les psaumes, psaume 126. Là, nous lisons à la fin du psaume, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de joie. » C'est un principe général. Mais alors, au verset 6, nous lisons, « Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. » Ce verset parle du Seigneur Jésus. « Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. » À la croix de Golgotha. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. une des gerbes, c'est l'assemblée, la satisfaction éternelle pour le corps, le cœur du Seigneur Jésus. Une récompense pour lui, pour son amour. Il a aimé l'assemblée et il s'est donné lui-même pour elle. Il y a dans Hymne et Cantique un hymne écrit par Henri Rossier, le numéro 64. Et la dernière strophe nous dit « Toi-même, tu verras ce que ton cœur réclame, de ton œuvre à la croix, le fruit mûr et parfait. Tu jouiras, Seigneur, du travail de ton âme, et ton amour en sera satisfait. » Quelle satisfaction parfaite, quelle joie, quelle allégresse pour le Seigneur Jésus qui un jour a donné sa vie pour cette assemblée.